Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Alors que la guerre dans son pays s'enlise, Volodymyr Zelensky s'inquiète.
3000 soldats nord-coréens se trouvent déjà sur le territoire de la Russie. Nous pensons, d'après les informations de nos services de renseignement, qu'ils en auront bientôt 12 000. Je dis bientôt. Il ne s'agit pas d'années ou de mois, c'est bientôt.
Pour étayer leurs propos, les autorités ukrainiennes ont diffusé des images qu'elles présentent comme la preuve de cette présence nord-coréenne sur le terrain. Le Pentagone, de son côté, dit avoir décelé des soldats dans la région russe de Koursk, où les Ukrainiens ont pu pénétrer en août dernier et où ils continuent de mener une offensive.
Je suis préoccupé par la situation.
Est-ce que les Ukrainiens doivent contre-attaquer ?
S'ils entrent en Ukraine, oui.
Des envois de troupes qui interviennent alors que Pyongyang et Moscou ont signé en juin dernier un pacte dit de défense mutuelle. De quoi inquiéter la Corée du Sud, toujours en conflit avec son voisin du Nord, malgré la signature d'un armistice en 1953. Séoul redoute qu'en échange d'envois de troupes, les Nord-Coréens ne bénéficient de l'aide des Russes pour obtenir des technologies spatiales notamment. Cet été, les Nord-Coréens ont installé 250 lance-missiles à la frontière avec la Corée du Sud. Il y a deux semaines, ils ont aussi fait exploser des tronçons de route reliant les deux pays.
Notre gouvernement appelle à un retrait immédiat des troupes nord-coréennes. Et si cette collusion militaire entre la Corée du Nord et la Russie perdure, nous ne le tolérerons pas et prendrons des mesures de concert avec la communauté internationale.
Qui peut calmer les ardeurs de Kim Jong-un? Alors que Donald Trump avait tenté un rapprochement avec le leader nord-coréen du temps où il était président, l'issue de l'élection américaine pourrait-elle changer quelque chose à la situation sur le terrain? En envoyant des soldats en Russie, quelle menace fait peser cette puissance nucléaire sur le monde?
Beaucoup d'hypothèses et trois experts pour explorer cette question. Général Nicolas Richoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien commandant de la 7e brigade blindée française. Selon vous, Vladimir Poutine a besoin de soldats nord-coréens pour compenser ses pertes humaines en Ukraine. Vous jugez qu'ils ne sont pas opérationnels pour combattre, mais que cela permettra d'observer à ces soldats nord-coréens, donc ça leur permettra d'observer les méthodes pour pouvoir combattre en Corée du Sud éventuellement. À côté de vous, Pierre Aski, bonsoir. Pierre Aski, chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Je précise que vous avez été correspondant en Chine pour le quotidien Libération entre 2000 et 2005. Selon vous, en échange de l'envoi de ces hommes, la Corée du Nord peut espérer bénéficier du savoir-faire russe pour développer son programme de missiles. Nous sommes dans une réalité effrayante, ajoutez-vous, qui pourrait mener à une guerre mondialisée. Et à côté de vous, Christine Dugoin-Clément, bonsoir madame, bonsoir. Chercheuse à la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne. Votre dernier essai, Influence et manipulation des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques, est paru chez VA Éditions. Selon vous, la Corée du Nord fait un tour de force car elle revient sur la scène internationale, ce qui met la pression sur les Américains à la veille, effectivement. Nous sommes à quelques jours d'une élection cruciale pour les États-Unis. Et on démarre avec une déclaration.
Oui, qui est aussi un chiffre. Hein, elle est signée du porte-parole du Pentagone. La Corée du Nord, affirme le général Patrick Ryder, a envoyé 10 000 soldats pour s'entraîner dans l'est de la Russie. Il serait même 12 000 selon les Sud-Coréens. Certains seraient déjà engagés dans la région de Koursk, cette enclave russe sous contrôle ukrainien depuis août dernier. Général Richoux, est-ce qu'on connaît le profil de ces soldats nord-coréens? Est-ce qu'ils sont d'unités d'élite ou de simples soldats?
Alors, à ma connaissance, je n'ai pas vu qu'ils étaient d'unités d'élite. Hein. Donc, ce sont des soldats, soldats lambda, c'est-à-dire des soldats de l'armée nord-coréenne qui, on le rappelle, font 10 ans de service militaire. Donc, c'est absolument énorme. Les femmes en font 8 et les hommes en font 10. Voilà, donc, je pense que pour le moment, ils sont dans la région de course, mais je n'imagine pas, mais je peux me tromper, hein, qu'ils sont engagés, ils seront engagés prochainement. Je pense qu'ils sont là pour l'acquisition d'expérience, pour avoir le retour d'expérience de l'armée russe, pour s'acclimater aux armes occidentales, bien entendu, avec pour but, après, éventuellement,
de les retourner
contre la Corée du Sud. Ouais, bon. Alors, on verra bien un petit peu dans l'avenir, dans les semaines suivantes, si effectivement ils sont engagés sur le front ou s'ils ne le sont pas. En tout état de cause, je pense qu'ils ont beaucoup de progrès à faire avant d'être au niveau, compte tenu que c'est une armée qui a quand même très peu été engagée depuis 1953.
Pierre, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas les imaginer en train de reconquérir cette enclave qui a été conquise par les Ukrainiens récemment à Koursk? On les imaginait être là pour ça, justement. Oui, c'est nord-coréen.
Alors, c'est une des hypothèses, évidemment. Oui. Mais, comme dit le général, c'est une armée qui n'a pas combattu depuis 1953. Alors, la Corée du Nord a cet arsenal extraordinaire. Elle est une puissance nucléaire. Elle fait des défilés avec des missiles énormes. Mais elle n'a pas fait la guerre depuis 70 ans. Donc, on n'est pas dans une armée aguerrie qu'on peut envoyer contre des troupes ukrainiennes qui, elles, sont en guerre depuis des années, ont du matériel occidental de dernier cri et qui, de surcroît, viennent d'obtenir l'autorisation de Washington d'engager les missiles américains contre les Nord-Coréens. Le porte-parole adjoint du Pentagone a déclaré que ce qui était interdit aux Ukrainiens, vous savez, c'est un des gros sujets de débat depuis des semaines sur le fait que ces missiles puissent être engagés en territoire russe. Les Américains ont dit que les Nord-Coréens n'ont rien à faire là, si les armes américaines peuvent être engagées contre eux. Donc, moi, je serais général nord-coréen, j'hésiterais à envoyer mes troupes directement sur le front.
Mais Christine Dugoin-Clément, on s'attendait à ce que Poutine les fasse venir justement pour que ce soit des soldats opérationnels, qui l'aident justement parce que sa mobilisation peut être compliquée en Russie. En fait, ce n'est pas le cas. Quel est l'objectif à ce moment-là de Poutine?
Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On verra s'il les utilise ou pas dans la région de Koursk, ne serait-ce que pour suppléer à des forces de sécurité sur des territoires qui seraient récupérés et qui auraient besoin d'être réorganisés, ne serait-ce que dans l'hypothèse où la Russie regagne ses territoires, eh bien on a eu des déplacements de population, il faudra les réamener, il faudra réencadrer. Ce qui ne serait très loin d'être des opérations de guerre, mais qui pourrait permettre de les mobiliser. Donc on a cet enjeu-là qui pourrait être fait. Donc effectivement, je vous rejoins complètement sur le fait de récupérer de l'expérience, récupérer des connaissances qui pourront être capitalisées ensuite. En tout cas, c'est le message qui est passé de manière et qui est très clairement reçu, notamment par la Corée du Sud. Donc on a tout cet élément-là. Et puis, du côté de la Russie, vous faites aussi monter, quelque part, les enchères et monter très fortement la pression. En disant, attention, on a des alliés qui sont prêts à déposer des soldats d'une armée régulière. Pour l'instant, c'est chez nous, donc on fait ce que l'on veut chez nous. Mais attention, donc on joue aussi sur cette espèce de montée de pression-là. Et ça pose d'autres questions, hein, notamment dans la relation avec la Corée du Sud, sur ce qui pourrait être fait ensuite.
Mais Vladimir Poutine n'a pas démenti, pour le coup, cet appui nord-coréen, tout en restant volontairement en vague.
В контакте с нашими северокорейскими друзьями и когда надо будет что-то решить, мы безусловно решим. Соответствующая позиция у наших друзей из Северной Кореи, корейской народно-демократической, есть. Но я хочу сказать, что это наше суверенное решение. Или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта. Это наше дело.
Ce sont nos affaires, Pierre Aski. Il faut rappeler quand même qu'il y a un partenariat qui s'est quand même noué depuis un certain temps entre Pyongyang et Moscou, au mois de juin notamment.
Oui, en fait, ça fait un moment que les deux pays se rapprochent. On a vu Kim Jong-un et Vladimir Poutine se rencontrer sur une base spatiale russe. Et c'était très intéressant parce que ça venait juste après l'échec de l'envoi d'un satellite espion par la Corée du Nord. Et on s'est demandé à ce moment-là, mais tout ça est dans une opacité évidemment colossale, mais on s'est demandé si ce que cherchait la Corée du Nord dans cette affaire, ça n'était pas justement de l'expertise russe sur les lancements spatiaux, puisqu'ils ont visiblement des problèmes. Et donc, il y a des échanges de bons procédés. La Corée du Nord a une industrie de défense qui est importante, puisqu'elle est sur le pied de guerre depuis 1953. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas eu de traité de paix à la fin de la guerre de Corée en 1953. Donc, techniquement, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre. Et ça veut dire que la Corée du Nord a donc consacre à peu près 30 à 40% de son PIB à la défense. C'est absolument colossal. On le voit d'ailleurs par l'état du pays, puisqu'il ne reste plus beaucoup d'argent pour le reste. Et donc, la Corée du Nord livre des obus missiles à la Russie, ce qui lui permet de tirer à peu près 10 fois plus d'obus d'artillerie que les Ukrainiens. Donc, c'est un échange de bons procédés entre deux pays qui sont soumis à des sanctions et qui ont des ambitions fortes.
Donc c'est ça l'échange de bons procédés entre la Corée du Nord et la Russie. Ils reçoivent des missiles et les Russes en retour.
Je pense qu'il y a, oui, c'est de la technologie d'un côté, des hommes et des obus de l'autre. Je rappelle quand même que les obus sur le terrain tel qu'il est actuellement, qui est un peu celui de la guerre 14-18, c'est absolument essentiel. C'est ce qui permet de faire la différence. Et on a vu au moment où les Américains ne fournissaient plus qu'il y avait un différentiel d'obus de 1 à 10, de 1 à 15 sur le terrain, ce qui est absolument colossal. On sait qu'ils ont livré plus de 3 millions d'obus. C'est absolument colossal. Mais à l'inverse, effectivement, technologiquement, les missiles, tout ce qui est satellitaire, on sait également qu'ils veulent faire un sous-marin nucléaire. Donc je pense que c'est une technologie qu'ils n'ont pas. Mais imaginez, sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, qui rôde au large des côtes américaines. Pour le moment, ils ne les atteignent
pas. Ça, c'est les Nord-Coréens qui
rêvent. Les Nord-Coréens. Ouais, donc là, on est véritablement dans une autre dimension d'un pays qui, je crois, consacre 3,5 milliards de son...
De son PIB,
de 3,5 milliards par an, simplement, mais en monnaie de singe. Donc, ils font beaucoup de choses avec. Mais vous imaginez, ils ont un PIB qui est absolument dérisoire et ils arrivent à jouer à la puissance mondiale.
Et à la puissance nucléaire, puisqu'ils en sont une. Christine Dugoin-Clément, la Corée du Nord joue une guerre de proxy avec la Corée du Sud, avez-vous dit pendant au moment de la préparation de cette émission, parce que finalement, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est un terrain de préparation, éventuellement, à cette guerre entre les deux Corées.
Alors en fait, on est vraiment sur une situation qui est particulièrement intéressante, certes anxiogène, mais néanmoins extrêmement intéressante, parce qu'on parle depuis plusieurs années maintenant des CRIC, hein, donc le groupe qui regrouperait Chine, Russie, Iran et Corée du Nord, puisqu'ils s'alignent, alors parfois de manière plus contextuelle que pour des raisons d'amour sincères, mais ils vont s'aligner sur des objectifs. On a les accords dont on a parlé de juin, où le leader nord-coréen parlait de la lutte sacrée que menait le président Poutine. On a toute cette approche-là. Ce qu'il faut avoir en toile de fond, c'est une montée de tension assez forte entre les deux Corées. Depuis maintenant plusieurs mois, il y a eu une modification de la constitution de la Corée du Nord, avec des échanges de drones qui seraient partis de la Corée du Sud en lançant des tracts sur la Corée du Nord. La Corée du Nord a répondu par des drones qui auraient lâché des ordures,
des poubelles.
On a cette modification de la constitution où finalement le fait d'arriver à la réunification aurait été rayé, et derrière on a une démonstration extrêmement cinégénique où on va détruire des axes qui permettent de relier
la Corée du Nord à la route qui reliait le Nord au Sud.
Tout à fait. Donc on est dans cette espèce de montée de tension qui est extrêmement forte, et la Corée du Nord a expliqué que toute action qui serait estimée comme belliqueuse de la part de la Corée du Sud serait estimée comme étant soutenue par les États-Unis. Donc on est dans toute cette approche-là, alors qu'on est aussi à la veille des élections américaines, tout en sachant que tout ce qui se passe dans la partie mer de Chine et extrême-orientale est extrêmement importante pour les États-Unis. Donc là, on arrive à faire une très grosse montée de pression et à arriver sur cette approche-là qui met tout le monde dans des situations très délicates sur ce que pourraient être les actions suivantes de la Corée du Nord.
Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Fanny la menace nord-coréenne liée au nucléaire, et la Corée du Nord veut accélérer précisément dans le cadre de son programme nucléaire.
Et elle le montre au monde entier. Il y a un mois et demi, le régime nord-coréen a diffusé pour la toute première fois les images de son usine d'enrichissement d'uranium à l'occasion, vous le voyez, de la visite du dirigeant Kim Jong-un. Lors de ce déplacement, Kim a appelé ses troupes à augmenter de façon exponentielle, ce sont ses mots, le nombre de centrifugeuses utilisées pour l'enrichissement afin de renforcer l'arsenal nucléaire. Selon un think tank sud-coréen, Asan Institute for Policy Study, d'ici 3 ans, Pyongyang possédera 200 ogives nucléaires et dans 6 ans, eh bien, elles seront à 300. Le dernier essai nucléaire nord-coréen remonte à 2017, mais le pays agite aujourd'hui la menace d'un nouvel essai, un 7e essai nucléaire avant l'élection américaine dans moins d'une semaine. L'été dernier, Pyongyang revendiquait aussi le lancement de missiles balistiques suffisamment grands pour pouvoir contenir des ogives nucléaires. Quant à Kim Jong-un, eh bien, il a inscrit le statut d'état nucléaire dans la constitution de la Corée du Nord, un statut irréversible, dit-il. Dans ses avancées de ce programme nucléaire nord-coréen, eh bien, le pays peut compter sur la Russie, puisqu'on l'a dit en juin, Vladimir Poutine, qui était en visite à Pyongyang pour la première fois depuis 24 ans, a estimé qu'il était temps pour les Nations Unies de revenir sur les sanctions imposées à la Corée du Nord à cause justement de ce programme d'armement nucléaire et balistique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Pierre Aski, que la menace nucléaire nord-coréenne n'a jamais été aussi, que c'est une menace vraiment brûlante ?
Alors, le problème de la Corée du Nord, c'est d'arriver à placer ses ogives sur des vecteurs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les armes nucléaires, il faut pouvoir les lancer. Et donc, tout l'enjeu, c'est le programme balistique. Aujourd'hui, on sait qu'ils maîtrisent l'arme nucléaire. Ils ont une cinquantaine de têtes. Vous l'avez dit, ils ont un programme exponentiel de développement du nombre de têtes nucléaires. 300, par comparaison, c'est le nombre de têtes qu'a la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un pays d'un milliard 400 millions d'habitants aura le même nombre de têtes nucléaires que la Corée du Nord, qui est un tout petit pays sans ressources. C'est assez colossal en termes d'efforts. Mais le vrai problème, c'est le programme balistique, parce qu'ils veulent... En fait, c'est là qu'ils jouent avec les Américains. Ils veulent pouvoir tenir les Américains sous la menace en disant on peut détruire San Francisco ou Los Angeles comme on veut. Il faut se souvenir qu'il y a 50 000 hommes de l'armée américaine stationnés en Corée du Sud, donc à portée de missiles nord-coréens. La capitale, Séoul, est à peine 60 km de la frontière. Hein. On est quand même dans des zones qui sont extrêmement tendues. La zone démilitarisée qui sépare les deux Corées est en fait l'une des zones les plus militarisées au monde. Vous y êtes de Séoul en même pas deux heures. Et c'est quelque chose, dans l'histoire de la Corée, il faut se souvenir que quand la guerre de Corée a éclaté, Séoul a été prise, puis ensuite Pyongyang a été prise en retour. C'est-à-dire que les deux capitales sont à portée de canons. Hein, et c'est ça qui rend toute cette situation extrêmement tendue.
Super explosive. Général Rishu, qui peut agir sur Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen? Qui a des leviers?
Alors vraisemblablement,
est-ce que c'est encore possible?
Un peu la Chine. Si on admet que la Chine a encore une influence complète et capable d'influer. Et ça, moi, j'en suis beaucoup moins persuadé aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé que la Chine soit ravie qu'on envoie 12 000 soldats en Ukraine, qu'on est en train de mondialiser le conflit, que le Pyongyang monte un petit peu aux extrêmes avec la Corée du Sud, alors que c'est quand même à leurs frontières. Ils n'ont pas intérêt à un conflit nucléaire dans la région. Mais est-ce que la Chine est aujourd'hui à toutes les clés de décision de Pyongyang? Moi, je n'en suis pas persuadé. Je crois que c'est un proxy qui vraisemblablement, ils ont une influence sur eux, mais en même temps, un peu comme le Hamas et le Hezbollah, ils ont une autonomie de décision qui font qu'aujourd'hui, on a quand même affaire à quelqu'un qui est parfaitement imprévisible.
Et bon, autonome, quasiment.
Je pense.
Alors, on peut se demander si les Américains pourraient avoir une influence possible. Avant que vous répondiez à cette question, on se remémore la première visite d'un président américain en fonction à Pyongyang. C'était en 2019, le 30 juin précisément, et c'était évidemment Donald Trump.
La rencontre s'est décidée dans la nuit.
Mon ami.
À la dernière minute. C'est du moins la version officielle.
C'est bon de vous revoir. Je ne pensais pas vous rencontrer ici.
C'est un honneur. Vous permettez que je franchisse cette ligne?
Vous seriez le premier à le faire.
Eh bien, j'en serais vraiment fier.
Et voilà l'image que retiendra l'histoire. Donald Trump, premier président américain, a foulé le sol nord-coréen.
Oui, il avait franchi la frontière. Vous avez raison de le faire remarquer, Pierre Aski. La frontière nord-coréenne.
Christine Dugoin-Clément, enfin, depuis, il n'y a plus de rapprochement. Et est-ce qu'on peut parler de conflits internationalisés? On voit que les Coréens sont impliqués. Enfin, est-ce qu'on a des pudeurs trop importantes?
Alors, je suis pas persuadée que ce soit une question de pudeur trop importante. Alors, d'ailleurs, Donald Trump avait essayé de faire des discussions. Hein. La dernière réunion avait été qualifiée d'amicale par Donald Trump, alors président. Mais enfin, il ne s'était plus parlé pendant deux ans quand même. Donc, c'est une amitié assez fraîche. Il avait fallu attendre l'administration Biden pour essayer de relancer ce genre de choses. Ce que l'on voit, c'est qu'on est dans une situation qui est effectivement extrêmement explosive, où on ne peut plus se concentrer sur un seul point de la carte, puisque ce conflit-là va avoir des conséquences qui outrepassent très largement les frontières de l'Union, de l'Europe, de l'Union européenne, des Occidentaux, donc des soutiens et de la Russie, qui sont les directement, ou plus ou moins à des niveaux différents, mais impliqués. Et tout ça, ça va aussi dans une approche, si on regarde côté russe, où on étend un petit peu le champ. On avait le sommet de Kazan avec le sommet des BRICS, dans lequel était reçu notamment un ministre taliban. On sait quelle est la modification à l'heure actuelle du statut des femmes, donc deux grands démocrates. Donc on a, si vous voulez, toute cette approche-là. Mais... où on voit que finalement ces pays-là, et on reparle des CRICS, et notamment de la Russie, essayent d'offrir une opportunité, ou du moins de se présenter comme étant une alternative crédible à la puissance, oui, notamment américaine.
Mais Pierre, vous parlez, vous, de guerre mondialisée.
Oui,
c'est ça l'objectif de Poutine, c'est d'impliquer...
La question, c'est pour ça que...
Il y a de guerre mondialisée à troisième guerre mondiale.
Guerre mondiale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, là on est clairement, on a deux pays asiatiques, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui s'impliquent dans le conflit russo-ukrainien, puisque la Corée du Sud a dit, puisque la Corée du Nord est du côté russe, nous on va aider l'Ukraine. Et donc, vous avez ces pays extérieurs à ce terrain européen qui sont aujourd'hui impliqués. La vraie question, et c'est, je pense que c'est la clé, c'est la question que posait le général tout à l'heure, quelle est la position chinoise ? Parce que la Chine est dans ces quatre pays qui ont une sorte de coopération étroite, donc Russie, Chine, Iran et Corée du Nord, la Chine est à part. Les trois autres sont soumis à des sanctions, ils sont au cœur de conflits, etc. La Chine, elle est dans l'économie mondialisée aujourd'hui. Elle est d'ailleurs en train d'essayer de relancer son économie qui ne se porte pas très bien. Elle n'a pas forcément intérêt à ce que ces conflits se développent. En revanche, elle sait que les Américains, en gros, veulent sa peau, veulent l'empêcher de se développer, notamment dans le domaine technologique. Et donc, elle n'a pas intérêt non plus à freiner les foyers de tension, parce que c'est une arme diplomatique pour elle. Donc, on est dans une équation qui est extrêmement délicate, parce que tout peut déraper. On est dans un moment, oui, que ce soit avec l'Iran, que ce soit entre les deux Corées, oui, ou que ce soit à la frontière russo-ukrainienne, ça peut déraper.
D'autant que, général Richoux, sur fond d'élections américaines à venir, oui, si Trump est élu, on entendait que des missiles pourraient être utilisés sur le territoire russe. Donc, tout là aussi, c'est imprévisible.
Le problème avec Trump, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Donc, Trump, il a quand même une qualité. Alors, on dit il va s'arranger avec les Russes, il va faire un deal, etc. Mais en fait, on n'en sait strictement rien. Trump, c'est quand même l'ambiguïté stratégique portée au sommet de l'art.
Là, il avait tenté un deal quand même avec le président.
Oui, bien sûr.
Le président,
And so what ? Il ne s'est rien passé.
Pas de suite.
On est bien d'accord. À part dire, je m'entendais bien avec Poutine, je m'entendais bien avec Kim Jong-un, etc. Alors on dit, moi, j'arrête la guerre en Ukraine en 24 heures, avec moi, on s'entend bien, il ne va rien se passer, etc. On verra bien. Trump, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement brutal. C'est quelqu'un qui manipule l'ambiguïté stratégique. Et même de l'autre côté, du côté de Poutine et Kim Jong-un, je pense qu'ils ne savent pas du tout ce qu'il va faire lorsqu'il sera au pouvoir. Donc là, je crois qu'il faut quand même rester très, très méfiant sur les réactions de quelqu'un qui veut rester le mal alpha absolu et qui veut avoir le dernier mot.
Bon, c'est la conclusion de ce débat, et il n'est pas encore élu, vous voulez rajouter, Christine Dugoin-Clément, c'est au conditionnel. Merci à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.